autour de la question.
D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Igor Strauss.
Et si c'était vrai, ou du moins envisageable? Et s'il y avait effectivement de la vie sur d'autres planètes? Bref, et si les extraterrestres étaient bien parmi nous, quelque part dans la galaxie, avec leur propre langage et leur propre moyen de transport, à savoir les fameuses soucoupes volantes? La question se pose depuis des siècles et a fait fantasmer beaucoup de monde, scientifiques comme citoyens ordinaires. Certains prétendent même les avoir vues, d'autres avoir été enlevées, mais il n'existe nulle preuve scientifique de ces apparitions ni de ces disparitions. En revanche, il y a ce qu'on appelle les PAN pour phénomène aérospatial non identifié, terme préféré à celui d'OVNI. Et ces PAN, qu'ils aient l'allure d'une boule de feu ou d'un cigare volant, relancent régulièrement le débat sur l'existence de ces fameux extraterrestres. Car vous en conviendrez, tout cigare volant a besoin d'un pilote. Alors si cet argument suffit à certains d'entre nous, il ne convient pas évidemment aux scientifiques. Mais alors, qu'est-ce qu'un phénomène aérospatial non identifié? Comment démêler l'illusion de la réalité en matière d'OVNI? Comment décortiquer les méprises les plus courantes et les illusions de perception entre chute de météorites et simples ballons de baudruche, entre hallucinations et croyances mystiques? Plus nous l'observons, plus le ciel nous révèle ses énigmes. Peut-on toutes les expliquer? Éléments de réponse avec nos invités autour de la question l'ufologie est-elle une science? Bonjour et bienvenue.
Comme sur ce document, on aurait voulu y croire. Une formation triangulaire lumineuse, semblable à un gigantesque cerf-volant, a été observée par des dizaines de personnes hier vers 19h.
Suite à ces informations, je me suis renseigné au centre de contrôle civil de Reims, qui lui m'a fait savoir que quelques pilotes avaient signalé des phénomènes bizarres, mais j'ai pas eu plus de détails.
C'était le 5 février 1967, à 10h moins le quart du soir. Je ferme la clé. Tout d'un coup, qu'est-ce que je vois? Un objet qui passe par-dessus le cimetière. On voyait les tombes aussi bien éclairées qu'en plein jour.
Patrick, 21 ans, profondément choqué, ne veut plus voir personne. C'est dans l'anonymat qu'il a accepté de raconter ce qu'il a vu.
Arrivé à quelques centaines de mètres de l'endroit où nous voyons l'objet, le moteur s'est arrêté avec les phares. Ma radio qui était allumée s'est éteinte. Nous avions l'impression que c'était un anneau qui tournait lentement. Et de ça s'est détaché un cône, une forme de quartier de tarte.
Vous croyez aux soucoupes volantes?
Aux soucoupes volantes? Vous savez que il y a à peu près un mois, on avait vu à 6h du matin, ici on était une dizaine là. Une lueur, mais on ne peut pas dire que c'était une soucoupe volante, hein. C'était un genre de boudin, quoi.
Xavier Passot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien ingénieur au CNES, le Centre National d'Études Spatiales, et vous êtes l'auteur de « J'ai vu un OVNI » paru aux éditions du Cherche Midi. Et Bruno Fuligny, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste des archives secrètes et l'auteur de « L'Atlas des zones terrestres, des zones extraterrestres paru aux éditions Artaud. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Évidemment, la question nous brûle les lèvres, Xavier Passot. Les extraterrestres existent-ils? Selon vous?
Ah, c'est une grande question à laquelle, bien sûr, je n'ai pas de réponse. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il n'y a aucune raison qu'il n'existe pas. Voilà. Après, la réponse je pense qu'on la saura dans bien longtemps.
Mais c'est vrai que, Bruno Fellini, cette hypothèse gagne en consistance ces dernières années. Hein. Le fait que, probablement, quelque part dans la galaxie, une vie existe.
Disons que c'est une hypothèse qui est posée par de nombreux scientifiques, mais qui en fait est posée déjà par les philosophes de l'Antiquité. Pourquoi? Si on postule que l'univers est infini, qu'il y a une infinité de mondes dans l'univers, c'est Épicure déjà qui tenait ce raisonnement. Il n'y a aucune raison pour que le nôtre soit le seul peuplé ou habité. La vraie question, c'est pas tellement à mon avis de savoir s'il y a de la vie à l'extérieur de la Terre, c'est plutôt quelle est cette forme de vie. Et très souvent, on va un petit peu vite de l'idée qu'il puisse y avoir une vie extraterrestre à l'idée qu'il y ait des petits hommes verts dans des soucoupes volantes qui viennent nous rendre visite. Ça n'est pas tout à fait la même chose. On pourrait imaginer des formes de vie même assez rudimentaires dans des exoplanètes loin de nous.
Mais alors justement, expliquez-nous ce concept d'exoplanète et puis finalement, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait de la vie sur Terre? Vous rappelez, vous, dans votre livre, que la photosynthèse n'est pas forcément nécessaire, mais pour qu'on comprenne bien, Monsieur Fulini d'abord, si les exoplanètes.
Si vous voulez, vous avez aujourd'hui, et depuis plusieurs décennies, un institut SETI qui explore cette hypothèse d'intelligence extraterrestre, de vie extraterrestre. Et finalement, ils en sont arrivés à une définition très large de la vie. Au fond, la vie, c'est tout ce qui modifie le milieu naturel dans lequel elle se trouve. Et donc, cette vie, elle peut prendre des formes même que nous n'imaginons pas. Vous voyez, je voudrais pas restreindre la définition de la vie à des êtres monocellulaires, ça ne suffit pas. Il peut y avoir des formes de vie que nous n'imaginons pas vraiment, mais qui existent. Il peut y avoir des formes de vie aussi qui sont dépassées, en quelque sorte. On pourra peut-être trouver des traces de vie qui n'existent plus, mais qui ont existé à d'autres époques sur des astres très lointains. Tout ça est envisageable. Pour reprendre le très bon adjectif que vous avez utilisé au début, on peut l'envisager, mais ça reste une théorie.
Xavier Passot, sur la possibilité qu'il y ait une autre forme de vie.
Alors, si on écoute ou si on regarde les travaux scientifiques récents, on s'aperçoit que d'un côté, les astronomes nous apportent presque chaque jour des éléments pour penser qu'il y a de plus en plus de chances qu'il y ait des planètes habitables, d'une part du fait du nombre d'étoiles, du nombre de... Maintenant, on pense qu'autour de chaque étoile, il y a une bonne poignée de planètes, on va dire, et que dans ces planètes, la plupart, enfin, quelques-unes au moins, seraient habitables, c'est-à-dire dans des conditions de température, de pression et de gravité qui soient convenables, on va dire. Et de l'autre côté, les biologistes qui étudient comment la vie a pu apparaître et comment elle a évolué, etc., nous apprennent tous les jours que l'enchaînement qui a permis depuis les premières briques de la vie jusqu'à nous est une succession de choses totalement improbables et d'une complexité inouïe. Voilà. Donc je résume ces deux affirmations par une multiplication mathématique qui est l'infini, qui est le nombre de cas, nombre de planètes potentiellement habitables, et epsilon qui est la capacité, le nombre, on va dire, ou la probabilité qu'une vie intelligente arrive sur une quelconque planète. Voilà. Et bon, les quelques mathématiciens qui connaissent cette formule, l'infini par epsilon, savent que le résultat est indéterminé. Voilà un peu la conclusion du sujet.
Alors Bruno Fulini, vous parliez tout à l'heure d'Épicure, donc ce philosophe grec du 3e siècle avant Jésus-Christ. En fait, tout part de là, tout part de... depuis de nombreuses années, l'homme a regardé le ciel. Encore aujourd'hui, on observe le ciel. Aujourd'hui, on parle d'ufologie. De quoi s'agit-il? Et est-ce qu'on peut parler de science?
Alors, on a pris l'habitude de désigner sous le nom d'ufologie ce qui a trait aux objets volants non identifiés, un UFO en langue anglaise. Des fois, ce terme est employé en mauvaise part, de façon un peu péjorative. On parle même des fois de soucoupisme, ce qui est encore plus péjoratif. S'agit-il d'une science? C'est un savoir. C'est un savoir, et moi ce qui m'a frappé en tant qu'historien, c'est d'abord la masse documentaire considérable que cela recouvre, et donc il faut se pencher dessus, il faut regarder, il y a de tout.
Puisque je rappelle que vous avez eu accès à de nombreux documents, à des archives secrètes, vous êtes bien placé pour parler.
Des archives qui furent secrètes, qui sont aujourd'hui déclassées pour ce qui est de la France, et puis des travaux qui sont parfois très sérieux, qui ont été faits sur des archives étrangères aussi. Et donc, il faut bien se rendre compte que ça fait plus de 70 ans que vous avez des observations qui nous disent, de gens qui disent avoir vu, avoir été en contact avec des formes de vie extraterrestres. Et donc au total, ça représente une masse documentaire vraiment importante. Il y a bien sûr le meilleur et le pire là-dedans. Vous avez toutes sortes de gourous, d'imposteurs, de démons qui ont vraiment raconté n'importe quoi. Et puis vous avez des cas beaucoup plus troublants dans lesquels vous avez une multitude de témoignages qui sont concordants. Et donc là, il faut bien s'interroger sur ce qui s'est passé. Alors, ça n'est pas parce qu'on a vu un phénomène ou qu'on a discerné un personnage ou une silhouette qu'il s'agit forcément d'un extraterrestre. Mais en tout cas, là, nous sommes dans une marge d'inexpliqué ou dans une marge de complexité qui nécessite qu'on se penche dessus. Est-ce pour autant une science ? Moi, je dis que c'est un savoir et un savoir qu'il faut appréhender avec justement les outils de la raison. Hein, pas les outils de la croyance. Il ne s'agit pas de dire « je crois à la vie sur telle ou telle planète », ça n'a pas de sens. La question, c'est de se pencher sur
j'ai
les éléments...
Tel événement,
Oui, mais bon, on peut être la proie d'une illusion, ne serait-ce que d'une illusion d'optique. Et puis nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, sans nous en rendre compte, nous charrions toutes sortes de représentations, d'images préconçues, d'archétypes qui font que nous pouvons interpréter de travers un phénomène dont nous avons été témoins. Donc tout ça nécessite vraiment une certaine distance, une certaine froideur, hein, en quelque sorte. Je me méfie beaucoup des passionnés du folklore. Je crois qu'il faut vraiment prendre au sérieux ces témoignages, mais les examiner avec sérieux.
Alors, Xavier Passot, justement, dans la préface de votre livre, Pierre Lagrange dit qu'il ne faut pas accabler les témoins de ces phénomènes. Le temps des experts tout-puissants est révolu. Oui. C'est un peu ce que dit M. Fellini. Il faut les écouter et vérifier, tout simplement.
Voilà, oui, effectivement. Pierre Lagrange milite pour un grand respect du témoin. Hein, respect du témoin et de son témoignage. Voilà. Effectivement, c'est quelque chose qui... Qu'au GEPAN, on essaye d'appliquer un maximum. Par contre, ce qui est difficile, c'est que un témoignage est tout à fait respectable. La quasi-totalité est sincère. C'est pas pour ça que qu'il est exact, c'est-à-dire qu'il est fidèle à la réalité de ce qui a été observé. Voilà. Donc, la difficulté pour un enquêteur, c'est de confronter le témoignage avec la réalité probable qui se cache derrière, avec souvent des distorsions très importantes. Alors, je parle toujours des problématiques d'estimation de distance, hein, qui est toujours souvent faite par le témoin, mais qui ne peut pas être exacte, car nos sens ne nous permettent pas d'estimer la distance d'un objet qu'on n'a jamais vu.
Et on va y revenir, évidemment, tout au long de cette émission.
Vous écoutez RFI autour de la question.
J'attends les itis, j'attends les étés, j'attends qu'un Vostok vienne me chercher. J'attends les itis, j'entends les fusées, j'attends les éthers et la voie lactée. Qu'on m'allume vite. Les caravelles, je les vite, le ciel est un grand.
Panama.
J'attends les E.T. Babix sur RFI autour de la question « L'ufologie est-elle une science ?» Nous sommes toujours avec nos invités. Xavier Passot, ancien ingénieur au CNES, le Centre National d'Études Spatiales et auteur de « J'ai vu un ovni » paru aux éditions du Cherche Mini. Et Bruno Fuligny, historien, spécialiste des archives secrètes et l'auteur de « L'Atlas des zones extraterrestres » paru aux éditions Artaud. Alors cette question dépend, hein, les phénomènes aérospatiaux non identifiés restent d'actualité puisqu'il existe un organisme tout à fait officiel, le GEPAN, le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, que vous avez présidé de 2011 à 2016, Xavier Passot.
Tout à fait.
Alors concrètement, il s'agit de quoi? Qu'est-ce que vous faites dans ce centre?
Alors la mission du GEPAN, c'est d'analyser les témoignages de témoins qui ont vu des choses qui les ont surprises dans le ciel. Voilà. Donc, alors derrière, il y a toujours.
C'est quand même plus de 200 témoignages qui reviennent chaque année. Hein.
Il en arrive à peu près toujours.
C'est conséquent.
À peu près cette même quantité. Hein. Voilà. Donc derrière, il y a toujours un petit peu ce fantôme extraterrestre, je dirais, quelque part, plus ou moins exprimé dans les témoignages. Quelquefois pas du tout exprimé, mais bon, quelquefois assez présent. Voilà. Et donc le rôle du GEPAN, c'est de regarder si ce témoignage est explicable par des observations d'avions, de satellites, de phénomènes astronomiques ou de choses beaucoup plus triviales comme des cerfs-volants ou des ballons, des lanternes chinoises.
Les lanternes Thaï notamment, voilà, vous en parlez dans votre bouquin.
C'est le cauchemar du GEPAN.
Voilà. C'est les lumières en fait, qui s'envolent dans le ciel et qui peuvent penser croire qu'il s'agit de... Voilà. Bah, d'une soucoupe volante. Alors, qu'est-ce qui revient le plus souvent? C'est les soucoupes volantes, c'est les cigares volants, les boules de feu.
En termes de forme, voilà, la soucoupe vient encore, mais c'est vrai que c'est les lanternes Thaï qui nous font les spectacles les plus troublants pour les témoins, tout simplement parce que les témoins les voient souvent en groupe, et donc ça fait des formes géométriques qui éveillent, alors quelquefois des triangles, quelquefois des plus grands vaisseaux, et les témoins ont l'illusion de voir un vaisseau sombre bordé de lumière orange. En fait, le vaisseau sombre est créé par leur cerveau, en fait, hein, qui, à partir de l'ensemble de points qui avancent, les témoins, quels qu'ils soient, imaginent cette forme sombre. C'est une illusion qui est assez connue, hein, depuis bien longtemps. On appelle ça le triangle de Canisa. Mais voilà. Donc ça, c'est le cas le plus fréquent.
Alors, on viendra sur vos techniques d'enquête, justement, après au GEPAN. Mais d'abord, Bruno Fuligny, vous avez analysé certains documents, vous avez eu accès à des archives qui étaient secrètes, on l'a bien compris. Y a-t-il beaucoup de documents, justement? Qui les rédige? Sont-ils fiables? Comment vous vous êtes intéressé à cette matière, finalement?
Alors, si vous allez au service historique de la Défense, qui se trouve au château de Vincennes, vous avez les archives des différentes armes de l'armée française, dont les archives de la gendarmerie. Et au sein de ces archives, vous avez des boîtes entières qui comportent des dossiers relatifs à des observations. Et d'ailleurs, on trouve même dans ces dossiers des échanges, bien sûr, entre la gendarmerie et le GEPAN. C'est-à-dire qu'on envoie des éléments, on reçoit des informations. Donc tout ça est consigné dans ces dossiers. Mais ce qui crée le dossier, c'est lorsque un individu ou plusieurs individus se manifestent auprès des gendarmes pour signaler un phénomène. Alors ça peut être un phénomène dans le ciel, mais c'est encore plus troublant quand c'est un phénomène qui a lieu à terre, parce qu'on s'est retrouvé face à face avec un engin étrange, un personnage bizarre.
Parlez-nous des exemples que vous citez dans votre livre. Il y en a beaucoup, hein, on ne va pas tous les dire, mais je pense à la soucoupe de Morsbach, c'est en Lorraine, avec le témoignage d'un certain Monsieur Bou.
Oui, là on dirait vraiment, comment dirais-je, le générique du feuilleton Les Envahisseurs, sauf qu'il est
David Vincent,
David
les a
Vincent. Donc Monsieur Bou, lui, est au volant d'un camion, il a terminé sa journée de travail, il est 20h30, c'est le 7 octobre, donc il commence à faire déjà sombre, et au milieu de la route, il voit des lumières, donc il pense que ce sont justement des gendarmes qui arrêtent la circulation, et en fait non, il voit un engin qui est posé, et donc il ralentit, il regarde, et puis l'engin s'en va. Alors, éberlué, il se précipite chez les gendarmes pour faire une déposition. sont un petit peu sceptiques au début, mais ils prennent la déposition et puis ils vont enquêter. Ils vont enquêter déjà sur le personnage lui-même, qui apparaît comme un homme tout à fait sérieux, pas du tout connu.
Un mythomane.
Pas du tout connu. On va interroger ses proches, on va interroger son employeur. Vraiment, tout le monde explique que c'est quelqu'un d'absolument sérieux et qu'il a forcément vu quelque chose. On va un petit peu sur les lieux, mais il n'y a plus vraiment de traces. C'est un cas troublant. Et puis, c'est un cas d'autant plus troublant qu'il a lieu, je vous l'ai dit, le 7 octobre de l'année 1954. Et il faut savoir qu'il y a eu de grandes vagues d'observations. Il y a eu la vague un peu fondatrice de 1947. Et puis, il y a eu une très grande vague d'observations en 1954. Et donc, celle-ci s'inscrit dans un contexte particulier, puisqu'on signale des ovnis, des soucoupes volantes, des visiteurs de l'espace un petit peu partout en Europe et dans le monde.
Alors c'est justement, on va revenir sur ces ovnis qui circulent en nombre conséquent à certaines périodes, mais tout d'abord expliquez-nous, donc vous parlez, cet atlas c'est l'atlas des points de rencontre entre terriens et EBE, les mystérieuses entités biologiques extraterrestres. J'ai une petite explication, ces EBE, comme on peut les résumer, c'est tout phénomène.
Voilà, c'est l'avantage de l'acronyme, c'est que ça permet de recouvrir vraiment toute forme d'êtres, d'entités avec lesquels les témoins se sont dit en contact parfois lointain, hein, juste une observation, parfois des échanges beaucoup plus proches. Bon, vous savez qu'il existe dans les observations plusieurs catégories d'extraterrestres telles qu'ils sont décrits. Donc les EBE, ça recouvre l'ensemble de ces catégories-là, que l'interlocuteur est une apparence tout à fait humaine ou est une apparence plus étrange, type petit gris, petit homme vert, ou tout ce que vous voudrez. Ce qui est surtout intéressant, c'est, je trouve, la permanence d'un certain nombre de traits que l'on va retrouver dans des lieux différents, avec des témoins différents. On décrit toujours un petit peu les mêmes types d'engins, les mêmes types de personnages. Alors, la question, c'est de savoir si ces gens ont vu la même réalité dans des lieux et dans des temps différents, ou bien s'il y a, au fond du cerveau humain, des représentations qui vont s'activer, exactement comme ces formes entre les points luminescents qui nous font immanquablement penser à un vaisseau alors qu'il n'existe pas.
Xavier Passot, en tout cas, les armées vont très rapidement s'intéresser à ces phénomènes. L'armée américaine s'y est intéressée pendant la guerre froide et même après. Hein, dans les années 50, l'US Air Force a mobilisé d'importantes ressources. Qu'imaginent les Américains à l'époque ?
Alors, pendant la guerre froide, c'est clair que les Américains craignaient que les Russes aient des engins supérieurs aux leurs, d'une part, et en plus qu'ils viennent s'amuser chez eux, ça ne leur plaisait pas du tout. Voilà. Donc ça, c'était clair, c'est ce qui a motivé la création des services d'analyse du faux à l'US Air Force. Puis au bout d'un moment, au début des années 60, par là, donc après 15-20 ans d'analyse, ils se sont aperçus que finalement, il n'y avait jamais eu de dégâts, on va dire. Hein.
C'est le fameux rapport Condon en 69,
c'est
ça,
rapport Condon, voilà.
Qui conclut que les PAN, finalement, ne sont pas un danger pour la nation.
Voilà.
Les programmes de recherche sont donc censés s'arrêter, mais vous nous expliquez que finalement, ils continuent quand même.
Alors, une fois que l'US Air Force ne s'en occupe plus, à partir du moment où ils sont sûrs qu'il n'y a pas de danger, il y a des gens qui continuent à s'en occuper, beaucoup de privés. Et sur le plan public, il y a eu au début des années 2000 un service qui a été un service un peu confidentiel qui a fait des travaux et qui n'a pas trouvé grand chose non plus d'ailleurs, hein. Ils ont terminé leurs travaux en 2012, ils n'ont pas trouvé grand chose alors que c'était piloté par quelqu'un qui avait vraiment très très envie de trouver quelque chose.
Mais le fait que justement l'armée américaine reprenne cela de façon secrète va entraîner des croyances totalement farfelues, hein. Les Américains seraient entrés en contact, oui, avec des extraterrestres, l'armée aurait capturé des ovnis. Ouais. C'est comme ça qu'on crée un mythe, finalement.
Ouais, alors il faut voir que l'ufologie aux États-Unis, c'est quand même très particulier, parce que c'est piloté par du privé, et du privé qui en fait quand même son business. Hein, voilà. Donc il y a tout un business derrière d'associations ou de sociétés qui vendent de l'UFO ou de l'OVNI sous toutes ses formes, de conférences, de livres, de cinéma, d'archives, etc. Et ça pollue très 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 sérieusement le débat. Mais la population suit. Hein.
Oui, la population suit. et puis de la population de différents pays. Oui, vous racontez un exemple assez cocasse, Bruno Fulini. Certains en France prennent cela tellement au sérieux. Vous racontez qu'un maire pince sans rire, écrivez-vous, a promis de mettre à la fourrière tout aéronef dit soucoupe volante ou cigare volant qui atterrira sur le territoire. Bigre, une soucoupe volante à la fourrière, ça c'est ce qu'on appelle être dissuasif.
Oui, alors c'est justement pendant la vague de 54, c'est à Châteauneuf-du-Pape, le maire fait un petit peu de publicité à sa commune en interdisant le survol, l'atterrissage et le stationnement des soucoupes volantes dans sa commune, et même un article de l'arrêté précise qu'en cas de contravention, c'est le garde champêtre qui va se charger de confisquer la soucoupe volante. C'était évidemment une plaisanterie, mais qui a fait parler un petit peu de la commune.
Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'a été écrit l'ovniport d'Arès, d'ailleurs, en Gironde.
Alors là, c'est l'ovniport d'Arès, c'est vraiment la logique inverse. C'est au contraire de dire aux extraterrestres, vous êtes les bienvenus.
Vous êtes les bienvenus.
Voilà. À Châteauneuf-du-Pape, vraiment, on n'en veut pas. C'est même assez xénophobe, finalement, comme arrêté. Et l'arrêté de Châteauneuf-du-Pape, d'ailleurs, est toujours en vigueur et il est même sur le site internet de la commune. Donc, ils en sont très fiers. À Arès, en Gironde, donc, hein, c'est sur le bassin d'Arcachon. Là, on est beaucoup plus accueillant puisqu'on a aménagé un ovniport. Alors, dans la réalité, c'est surtout une fabuleuse aire de jeu pour les enfants. Mais enfin, vous avez un lieu qui est prêt pour l'atterrissage d'ovni avec une manche à air, avec tout un matériel pour accueillir dignement les extraterrestres. Ils sont même exemptés de toute taxe municipale et cordialement invités aux fêtes locales. Donc vous voyez là aussi... C'est plutôt sympathique, mais dans les deux cas, c'est vrai qu'on s'adresse à l'opinion, on s'adresse aux médias en jouant sur cette fascination et cette peur aussi hein, que suscite l'arrivée un jour peut-être d'extraterrestres sur notre planète.
Xavier Passot, plus sérieusement, en France toujours, le rapport Cometa est fait par des experts, tout ce qu'il y a de plus sérieux, est remis à Lionel Jospin lorsqu'il était Premier ministre. Il dit ce rapport en substance que l'espace aérien est traversé par des pans, hein, donc, et qu'il est important de s'y intéresser davantage en s'appuyant sur 15 exemples. Vous avez eu accès à ces 15 exemples et en deuxième lecture, vous avez compris qu'il y avait quand même une supercherie, c'est ça ?
Non, le terme supercherie était tout à fait excessif. Hein. Non, c'est pas une supercherie, c'est un manque de sérieux de part d'un manque de rigueur, on va dire.
Mais qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille, alors ?
Alors, moi, je dirais, comme beaucoup de lecteurs, j'ai lu ce document avant de prendre mes fonctions au GEPAN. Hein. J'ai été assez... assez impressionné hein, par tous ces cas, etc. Et puis, après 4 ou 5 ans d'expérience, avoir traité de nombreux cas et avoir connaître un peu mieux le sujet et tout, j'ai repris ces cas-là. Et j'en ai évalué la solidité, la consistance, c'est-à-dire est-ce que les données étaient vraiment sûres, est-ce que c'était vraiment des sources de qualité, etc. Et les uns après les autres, ma foi, il ne reste pas grand-chose. Quoi. Il ne reste pas grand-chose, il y en a quelques-uns d'abord qu'on peut expliquer assez facilement déjà, qui sont même déjà expliqués depuis le moment, depuis l'époque où le rapport a été émis. Et les autres, c'est souvent soit des témoins uniques, soit des informations de seconde main, ou des choses comme ça. Et au bout du compte, eh bien, tous ces cas-là, il n'en reste rien qui peut résister à une analyse très critique un peu sévère.
Revenons à notre conférence avec une théorie très en vogue dans les années 70. Une théorie qui nous explique que les extraterrestres auraient commencé à nous visiter à partir du moment où nous avons atteint le niveau technologique suffisant pour déclencher une catastrophe nucléaire. Ce seraient nos premières explosions de bombes atomiques qui les auraient attirés. Il existerait donc une sorte de CEA, un commissariat à l'énergie atomique, mais intergalactique, un CEAI, j'imagine, qui scrute l'univers à la recherche de boom nucléaire, et quand ils en repèrent un, le responsable derrière son radar doit se lever et dire « Pauvre fou, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et hop, il envoie une patrouille. Qui n'intervient pas, d'ailleurs, Non, qui est là dans une espèce de surveillance, comme ça, discrète, furtive, inaccessible, comme ça. Qui n'intervient peut-être qu'en cas d'extrême urgence. Donc, Tchernobyl, Fukushima, ils ne sont pas intervenus, donc a priori ça passe. Ouais. On doit être en dessous du seuil du cas d'urgence, ça c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est probablement un appareil d'une de ces fameuses patrouilles de surveillance qui, en juillet 47, s'est malencontreusement écrasé au Nouveau-Mexique, non loin de la ville de Roswell. Oui, oui, les extraterrestres ont réussi l'incroyable et même impensable exploit du voyage interstellaire. Ils sont parvenus à franchir des années-lumière de distance, résistant aux orages nucléaires, aux orages solaires, aux radiations. En revanche, point de vue pilotage, ils font des conneries, comme nous. Ils roupillent au volant, ils loupent des créneaux, et de temps en temps, ils se viandent. Voilà. Alors, gros coup de chance pour nous sur les 500 millions de kilomètres carrés que représente la surface de notre planète, dont 70% sont des océans. La soucoupe s'est crachée à moins de 40 bornes à vol d'oiseau d'une base de l'US Air Force. Alors, ce qui nous a permis de pratiquer les fameuses autopsies sur les corps des victimes retrouvées dans l'appareil. Autopsies qui nous ont porté à deux déductions majeures. Première déduction, une tête, un tronc, deux bras, deux jambes est définitivement la marque absolue de l'évolution suprême dans tout l'univers. C'est une très bonne nouvelle. Et deuxième déduction majeure, piloter à poil semble être une sorte de tradition du voyage interstellaire à laquelle on se soumet nous-mêmes, vu la plaque de la sonde pionnière. A priori, tout le monde se dessape. Voilà.
Extrait du spectacle d'Alexandre Astier, l'exoconférence. Bruno Fulini, une réaction, parce que vous en parlez dans votre livre, l'utilisation de l'arme nucléaire aurait attiré les extraterrestres. Mais d'où vient cette idée?
Alors, évidemment, c'est là aussi une hypothèse qui est résumée de façon très, 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 très plaisante ici. Il est vrai que il y a une concomitance entre le début de la guerre froide et donc très peu de temps après l'utilisation réelle d'armes nucléaires sur le Japon, et ce qui fait qu'une un des éléments d'explication, ça a été de dire qu'en utilisant l'arme nucléaire, les terriens ont involontairement envoyé des signaux perceptibles très loin, ce qui aurait déclenché une intervention, alors dont évidemment les contours restent totalement à déterminer, une intervention de civilisations plus avancées. Alors les plus pessimistes disent que c'est pour nous détruire parce que nous devenons dangereux, les autres disent que c'est pour nous venir en aide parce que nous représentons un danger pour nous-mêmes. Et c'est intéressant d'entendre dans le sketch d'Alexandre Astier une référence religieuse. Ils ne savent pas ce qu'ils font, parce que cette explication-là, elle est beaucoup liée à une forme de culpabilité, finalement. C'est-à-dire qu'au début de la guerre froide et à un moment où l'humanité s'attend vraiment à un cataclysme nucléaire, nous, on n'en riait pas dans les années, à la fin des années 40, au début des années 50. On craignait vraiment une troisième guerre mondiale avec une conflagration nucléaire. Eh bien, il y a l'idée qu'une solution puisse venir du ciel, qu'il puisse y avoir une intervention de civilisation extraterrestre. C'est dans ce contexte même que va imaginer une hypothèse à laquelle personne n'avait pensé, c'est celle des posadistes, et donc d'un trotskiste argentin qui a imaginé une ufologie marxiste. Pour résumer très grossièrement, les civilisations qui sont capables de tels voyages à travers l'espace sont beaucoup plus avancées que nous, donc elles ont déjà réalisé la société communiste, et donc elles viennent aider par solidarité les travailleurs terriens arriérés avant qu'ils ne fassent n'importe quoi. Il y a toutes sortes de constructions idéologiques qui ont été faites sur la base de la culpabilité de l'arme nucléaire, et c'est pour ça qu'un grand psychologue comme Jung va parler d'un mythe moderne. Pour lui, c'est juste un mythe, ces visites d'extraterrestres, mais il les explique par cette forme de culpabilité collective qui est dans la psychologie humaine à ce moment-là. I've been working as great shifts and I am I wish I could buy me a spaceship and fly.
I swear I do.
Past the sky.
Just a feeling, I feel you, man.
I've been working this great shift and I ain't made shit. I wish I could buy me a spaceship and fly. Past the sky.
My manager insults me again, I will be assaulting him. After I fuck the manager up, then I'm gonna shorten the register up. Let's go back to the gap. Look at my check, wasn't no scratch. So if I stole, what am I fault? Yeah, I stole, never got caught. They take me to the back and pat me, asking me about some khakis. But let some black people walk in, I bet you they show off they token blackie.
Oh, now they love Kanye. Let's put them all in the front of the store. So I'm on break next to the no smoking sign with a blunt in the mall. Taking my hits, writing my hits, writing my rhymes, playing my mind. This fucking job can't help them, so I quit. Y'all welcome. Y'all don't know my struggle. Y'all can't match my hustle. You can't catch my hustle. You can't fathom my love, dude. Lock yourself in a room doing 5 beats a day for 3 summers. That's a different world like 3 summers. I deserve to do these numbers. The kid that made that deserves that made back. So many records in my basement. I'm just waiting on my spaceship. I've been black.
Working a straight shift and I ain't made shit. I wish I could buy me a spaceship and fly past the sky. Oh, I've been working this great shift and I ain't made shit. I wish I could buy me a spaceship and fly.
Spaceship, Kanye West sur RFI. Aujourd'hui, nous parlons d'extraterrestres et de soucoupes volantes autour de la question, l'ufologie est-elle une science? Alors, le ciel peut être la scène de multiples phénomènes rares ou insolites. Encore faut-il les interpréter correctement.
Souvent, lorsqu'un phénomène est inexpliqué, on va assez rapidement chercher une explication extraterrestre. Donc, il faut avoir travaillé dans un observatoire pour savoir qu'on reçoit beaucoup d'appels, hein, dès qu'il y a un phénomène lumineux, généralement. La plupart du temps, on trouve une explication assez simple à donner aux personnes qui téléphonent, mais il m'est arrivé une fois, justement, un observatoire dans le sud de la France où je travaillais, où on avait... je suis sorti à l'extérieur pour voir le phénomène en question. Alors, je me suis posé moi-même la question, est-ce que je suis confronté? Mais on a réussi, après 2 jours d'analyse, à déterminer l'origine. Et c'était un concert rock sur la Côte d'Azur, à 50 km de l'observatoire. Et ce qu'on voyait, en fait, c'était l'aboutissement du faisceau laser sur des nuages de très haute altitude. Et bien, ce qu'on voyait, hein, c'est des taches ovales qui se déplaçaient à très grande vitesse et qui changeaient de direction de façon quasi instantanée. Donc, j'ai été médusé un peu.
Et c'était le physicien Martin Aubé. Alors, Xavier Passot, le ciel peut être la scène de phénomènes insolites. Hein. Du coup, tout est question d'interprétation, Martin Aubé le dit très bien. Et vous citez également dans votre ouvrage de nombreux exemples. Alors, il y a les fameux points lumineux dans le ciel qui se révèlent être la planète Vénus. Ou encore l'OVNI de l'armistice, racontez-nous.
Alors, l'OVNI de l'armistice, c'est ce qu'on appelle un météore, un bolide, mais qui a été vu par plus de 500 personnes qui ont témoigné. Et la complexité du traitement de ce genre de témoignage, c'est que chaque témoin estime avoir vu le phénomène très près, à quelques dizaines de mètres ou quelques centaines de mètres, du fait que c'est très lumineux. Voilà. Donc, si on fait la carte de France, on peut, si on prend les témoignages au pied de la lettre, penser qu'un seul vaisseau a survolé le quart de la France en quelques minutes, en faisant des zigzags d'ailleurs. Voilà. Alors, la réalité astronomique, elle est tout à fait autre. Hein. La réalité, c'est que c'est un seul objet qui n'était pas à 300 mètres d'altitude, mais qui était à 25 km et qui a fait une trajectoire tout à fait rectiligne et qui a fini peut-être par faire un petit plouf dans la Méditerranée. Voilà un exemple extrêmement frappant parce que on s'aperçoit que sur comme ça un ensemble de témoignages qui sont tous de bonne foi, hein. On peut avoir une interprétation complètement mauvaise du phénomène. Et d'autre part, on aperçoit aussi que l'ensemble des témoignages est peu fiable. C'est-à-dire que les informations fiables de chaque témoignage sont l'heure, à peu près, à quelques minutes près, et puis la direction de déplacement à 45 degrés près quand même aussi. Voilà, donc c'est des cas extrêmement intéressants. On peut penser que un cas de ce type-là est expliqué. C'est l'origine du truc de Tananarive en 54.
Entre les météorites, hein, chaque jour la Terre reçoit 100 tonnes de météorites, ce qui est considérable, entre les satellites, entre les lancements de fusées, il y a de quoi tromper la vigilance et la perception des humains finalement.
Le catalogue est immense, hein. Le catalogue est immense. Quand on est ufologue, il faut avoir une culture extrême, puisqu'il faut connaître aussi bien les lanternes taille, les ballons, les insectes, les oiseaux migrateurs même. Les oiseaux nocturnes, l'astronomie bien sûr, les satellites, les avions, enfin la liste est immense des phénomènes.
Immense, on le disait tout à l'heure, vous recevez plus de 200 témoignages chaque année. Est-ce que chaque témoignage aboutit à une enquête, et concrètement comment est-ce que vous menez ces enquêtes au GEPAN, donc le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés? Xavier Passot.
Alors l'objectif est bien de traiter tous ces cas. Malheureusement les moyens sont un peu insuffisants, donc certains cas restent un peu sur le bord de la route, mais enfin l'objectif quand même c'est de tout faire, et on en sort quand même une bonne,
tout abouti,
une bonne partie. Oui, tout aboutit. Alors aboutit quelquefois à de l'inexpliqué, hein, aussi. Ça aboutit à de l'inexpliqué. Voilà, c'est-à-dire quand on à l'issue de l'enquête...
Mais qu'est-ce que vous en déduisez quand c'est inexpliqué justement? On expliquera après l'expliquer.
On en déduit que on ne sait pas ce que c'est, mais que c'est quand même quelque chose qui est, on va dire, rare, insolite ou extraordinaire. Voilà, mais c'est tout ce qu'on déduit. On ne va pas plus loin. Et on se garde bien de déduire que c'est des visiteurs, venant d'une autre planète. Hein, parce que ça, d'une part, on ne sait pas du tout ce que ça peut être d'autre. On serait incapable de faire la liste des autres hypothèses. Et d'autre part, parce que souvent aussi, on est face à un manque de données objective. C'est-à-dire souvent, ces témoignages uniques, il n'y a pas de photos, pas de vidéos, et voilà.
Donc c'est très difficile, effectivement, de déterminer le vrai, le faux du vrai. Voilà. Juste pour une dernière petite précision, depuis 2010, vous collaborez avec le laboratoire de psychologie cognitive de l'Université Jean Jaurès de Toulouse pour faire des entretiens cognitifs. Qu'est-ce que ça a apporté, ça, finalement, brièvement?
Ça nous a apporté une meilleure qualité des informations du témoin, justement. C'est-à-dire ça permet d'enrichir le témoignage écrit en libérant le témoin d'un carcan de questionnaires, de questions fermées, choses comme ça. Donc le but de l'entretien cognitif, c'est de faire parler le témoin le plus librement possible sur son expérience, de façon à ce qu'il lui revienne en mémoire d'abord un maximum de détails, et aussi qui disent un maximum de choses sur son expérience.
Alors, il y a aussi des notions plus que bizarres cette fois-ci. Certains prétendent avoir été enlevés, on les appelle les abductés. Ils sont fréquents, Bruno Fuligny, ça arrive fréquemment ça?
Non, c'est rare. Le premier témoignage vraiment étayé, ce sont les époux Hill aux États-Unis. C'est en septembre 1961, ils rentrent de vacances au Canada, on est dans le nord-est des États-Unis et dans une zone un petit peu désertique. À la nuit tombante, ils voient un engin dans le ciel et ils raconteront que cet engin finit par atterrir et par les capturer pour procéder sur eux à des observations, voire à des expériences. Et ils vont se réveiller assez loin du point de capture avec des souvenirs brouillés. Alors souvent dans les témoignages d'abductés, il y a cette idée qu'on a un peu effacé leur mémoire. D'où des recours à l'hypnose ou à toutes sortes de méthodes pour essayer de reconstituer les souvenirs. Alors là, c'est vraiment des cas tout à fait étranges, hein, bien sûr, qui peuvent aussi s'expliquer dans certains cas par le besoin de reconnaissance, par... Ça ne veut pas dire que les gens affabulent, mais parfois, là aussi, il peut y avoir une explication extraterrestre d'un phénomène d'errance ou de trou de mémoire qui peut avoir des origines tout à fait humaines. C'est assez compliqué. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que dans les années 60-70, il y a eu comme cela une série de témoignages d'abductés. Et puis, il y a aussi aussi eu des disparitions. Alors bien sûr, un avion, un hélicoptère peut plonger dans l'océan et on ne sait pas ce qu'il est devenu, surtout au début évidemment de l'aviation. Et on a attribué parfois à des engins de provenance extraterrestre la disparition de navires ou d'astronefs habités, avec l'idée aussi que peut-être ils ont prélevé des humains pour les étudier ou pour les amener chez eux. Bon, évidemment, ça c'est la grande peur, hein, la grande peur. S'il y a des extraterrestres, est-ce qu'ils peuvent s'en prendre à nous, soit pour nous boulotter, soit pour nous amener très très loin de notre planète.
Et Xavier Passot, il y a également des gens qui prétendent avoir vu des extraterrestres, et selon vous, il s'agit surtout de cas de paralysie du sommeil, c'est ça ?
Voilà, alors les quelques cas auxquels j'ai été confronté d'expériences proches de ça, avaient toutes les caractéristiques de ce qu'on appelle la paralysie du sommeil, qui quelque chose qui peut arriver à n'importe qui, hein. C'est-à-dire une sensation d'être dans son lit, paralysé, immobile, et de voir des spectacles effrayants, qui peuvent être des humanoïdes ou des dragons ou des
ça nous est tous arrivé d'être bloqué dans notre sommeil, de croire voir quelqu'un.
Voilà, donc c'est forcément l'extraterrestre, mais c'est un état de conscience un peu bizarre qui est connu depuis bien longtemps, hein, depuis l'Antiquité, hein, cette notion. Alors avant, les gens voyaient plutôt des monstres, des dragons et des choses comme ça. Maintenant, les gens voient plutôt des humanoïdes, et donc à leur réveil, les personnes peuvent avoir une sensation d'avoir eu une rencontre exceptionnelle pendant leur sommeil. Donc j'ai été confronté pendant une fois. Sinon, des récits d'enlèvement dans les archives du GEPAN, moi j'ai pas eu à en traiter. Hein, voilà.
Alors on parle d'extraterrestres, mais il y a également, Bruno Fulini, des intraterrestres. Vous en parlez très brièvement, parce qu'après je voudrais vous demander une dernière petite pépite qui se passe sur le plateau de Bandiagara au Mali.
Oui, ces êtres étranges viennent peut-être de l'espace, mais ils peuvent venir aussi de l'intérieur de la croûte terrestre. C'est ça la thèse des intraterrestres. Et il y a même une synthèse où ce seraient des extraterrestres qui se seraient réfugiés à l'intérieur de la Terre.
Les intraterrestres seraient des descendants d'extraterrestres.
Ouais. Ou des extraterrestres qui attendraient des renforts pour prendre le contrôle de la planète. Bon, on n'en sort
pas. Ça va loin.
Ça va loin. La théorie des intraterrestres se relie souvent aux multiples théories de la Terre creuse. Mais là, il faudrait une émission entière. Et quant au plateau de Bandiagara, là, ce ne sont pas
au Mali. Ça, c'est poétique. C'est mystique, mais c'est d'une poésie incroyable.
Oui, et là, il ne s'agit pas du tout d'intraterrestres, il s'agit d'un peuple bien connu.
Les Dogons.
Les Dogons. Et il se trouve que dans la cosmogonie des Dogons, il y a l'idée qu'ils viennent de l'espace et très précisément du système de Sirius. Et il y a en particulier un ethnologue dans les années 50, Marcel Griol, qui s'est intéressé aux Dogons, qui a consigné leur récit et qui a voulu y voir en fait un récit historique en quelque sorte. Et donc leur grand ancêtre Nomo aurait entraîné une population depuis le système de Sirius, population d'ailleurs amphibie, et puis au fur et à mesure que leur territoire terrestre se serait asséché, eh bien ils se seraient adaptés. Alors on sait que les Dogons ont un folklore assez magnifique avec de très beaux masques ornés de coquillages, et c'était assez troublant parce que ces masques évoquent assez facilement des scaphandres qui seraient équipés de grandes antennes, donc on a vraiment envie d'y croire.
Et surtout ils avaient compris qu'il y avait Sirius A et Sirius B, ce qu'elles n'avaient pas forcément vu les astronomes au départ.
Voilà, ils connaissent les anneaux de Saturne, la rotondité de la Terre, et a priori de longue date, sauf si à l'époque où ils ont été interrogés, eh bien, ils avaient déjà acquis, par des biais qu'on ignore, des connaissances qui venaient du monde occidental. Ça, c'est autre chose.
Mais écoutez, voilà une histoire qui, j'en suis sûr, va ravir nos auditeurs. Écoutez, merci infiniment à tous les deux d'être passés dans ce studio. Xavier Passot, je rappelle que vous êtes ancien ingénieur au CNES, le Centre National d'Études Spatiales, et auteur de « J'ai vu un ovni, paru aux éditions du Cherche Midi. Et Bruno Fulini, vous êtes historien, spécialiste des archives secrètes et l'auteur de « L'Atlas des zones extraterrestres » paru aux éditions Artaud. Un grand merci à Sophia Bédard qui a programmé cette émission et à Hugo Violas qui en assurait la réalisation. Demain, nous parlerons de l'histoire des civilisations autour de la question « Comment l'archéologie bouleverse nos connaissances ?» Bonne journée à tous et à demain, à suivre un nouveau journal sur la Radio du Monde.
Pour nous contacter, autour de la question @rfi.fr.